l'écoute de RFI, Radio France Internationale, et je vous en remercie. Il est minuit, une heure en temps universel, excusez-moi, deux heures à Berlin.
Mathis Limano.
Dans votre journal, l'Allemagne sous le choc après une attaque à la voiture Bélier sur un marché de Noël. Ça s'est produit dans la soirée à Magdebourg. Une voiture a foncé dans la foule. Deux morts et plus de 60 blessés selon les autorités régionales. Le conducteur a été arrêté. Il aurait agi seul. La piste de l'attentat est privilégiée. On retrouve notre correspondant à Berlin juste après les titres. En France, le verdict est tombé dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les peines plus lourdes que les réquisitions vont de 1 an à 16 ans de prison ferme. Tous les accusés ont été reconnus coupables d'avoir aidé ou en tout cas encouragé un islamiste radical à assassiner le professeur d'histoire. Et puis au Niger, la compagnie minière Orano engage une procédure d'arbitrage international avec les autorités de Niamey. La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité, écrit Emmanuel Macron sur X. Pedro Sanchez, lui, se dit choqué. Le chef du gouvernement espagnol dénonce une terrible attaque. Attaque à la voiture Bélier qui suscite l'émoi en Allemagne. Deux morts et près de 70 blessés selon le dernier bilan. Le récit des événements avec notre correspondant Pascal Thibault.
C'est vers 19h vendredi soir qu'une voiture a foncé à très vive allure dans la foule nombreuse un vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg dans l'est de l'Allemagne. Ce qui explique un bilan humain très lourd avec près de 70 blessés. Ce bilan pourrait s'alourdir. Les secours se sont activés toute la soirée pour venir en aide aux blessés légers ou plus graves. Le conducteur de la voiture a été arrêté très peu de temps à proximité du marché de Noël. Il s'agit d'un homme de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite, qui vit depuis 2006 en Allemagne, où il avait obtenu le statut de réfugié. C'est un médecin psychiatre. Les autorités ne lui connaissaient pas d'antécédents islamistes. Cette attaque, qui rappelle celle perpétrée il y a presque 8 ans, jour pour jour, sur un autre marché de Noël à Berlin cette fois, a provoqué une énorme émotion dans le pays et de nombreuses réactions. Le chancelier Scholz, sur la plateforme X, a par exemple considéré qu'il fallait présager le pire. Il a eu raison. Il se rendra aujourd'hui à Magdebourg accompagné de la ministre de l'Intérieur. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et pour sa part, l'Arabie Saoudite a réagi. L'auteur présumé est d'origine saoudienne. Riyad condamne l'attaque et affirme son rejet de la violence, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple allemand et les familles des victimes. Fin de citation. La cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict dans le procès Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné il y a 4 ans devant son collège par un islamiste radical. Il avait été abattu par la police, mais 8 accusés comparaissaient pour des degrés divers d'implication. Deux amis d'enfance du tueur écopent des peines les plus lourdes, 16 ans de prison pour complicité d'assassinat terroriste. Le père d'une collégienne et un prédicateur islamiste sont eux condamnés respectivement à 13 et 15 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Ils étaient à l'origine de la campagne de haine en ligne visant Samuel Paty. Gilles Roumieux est professeur d'histoire-géographie comme Samuel Paty et il redoutait que les peines soient plus faibles.
En tant qu'enseignant, j'étais tellement meurtri et choqué et abasourdi, sidéré par le crime perpétré contre mon collègue, que je m'attendais à des peines qui soient exemplaires. J'avais été très étonné des réquisitions qui avaient été observées. J'avais trouvé que c'était assez clément comme réquisition. Et puis, à la lumière du verdict, voilà, il y a eu des peines qui ont été rehaussées, qui ne répareront jamais le crime horrible qui a été perpétré, mais qui lance quand même un signal à tous ceux qui voudraient répandre des fausses rumeurs et puis mettre en danger la vie de professeur.
Gilles Roumieux, professeur d'histoire-géographie avec Lou Ecal. Vous êtes sur Radio France Internationale, 1h04 en temps universel, 2h04 à Niamey. Le bras de fer continue entre le Niger et Orano. La compagnie minière a annoncé ce vendredi qu'elle engageait une procédure d'arbitrage international. Objectif, régler son contentieux avec le Niger à la suite du retrait de son permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren. Marie-Pierre Olfan pour les explications.
Les médiations menées depuis le retrait du permis d'exploitation d'Imouraren le 19 juin se sont révélées infructueuses. C'est le constat fait aujourd'hui par Orano qui, pour défendre ses droits, s'en remet donc désormais à un cabinet d'avocats basé à Paris et spécialisé dans les questions d'arbitrage. Orano avait déjà évoqué la possibilité de mener une action en justice suite à ses déboires avec la Somaïr, sa dernière filiale en activité dans le pays. Début décembre, le géant français du nucléaire avait annoncé avoir perdu le contrat contrôle opérationnel de la société des mines de l'Aïr, qu'il détient pourtant à 63%. Cette perte de contrôle s'est traduite ces dernières semaines par le non-respect de décisions prises en conseil d'administration. Résultat, selon Orano, la situation financière de la Somaïr se dégrade chaque jour un peu plus et faute de pouvoir être exportée à cause de la fermeture des frontières, les stocks d'uranium s'accumulent. Niamey n'a pas caché ces derniers mois sa volonté de réorganiser son secteur minier, ni son désir de se rapprocher de nouveaux partenaires, qu'ils soient russes, turcs ou encore iraniens.
Aux États-Unis, le spectre d'un shutdown s'éloigne. Ce n'est pas encore fait, mais la Chambre des représentants a adopté un texte budgétaire permettant d'éviter la paralysie des services fédéraux. Il doit maintenant passer le vote du Sénat, puis être ratifié par Joe Biden, et ce, avant minuit, heure locale, sans quoi le pays sera plongé dans un shutdown avec ses conséquences, notamment le gel de plusieurs aides sociales ou encore le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires américains. Eux sont en grève depuis ce vendredi, toujours aux États-Unis. Ce sont les employés de chez Starbucks. Les syndicats de la célèbre chaîne de café réclament à la direction la signature de conventions collectives. Agnieszka Kumor, les débrayages ont débuté dans 3 grandes villes américaines, mais pourraient s'étendre à tout le pays.
Noël a le goût amer pour les baristas de Starbucks. C'est en ces termes qu'un syndicat regroupant plus de 10 000 employés de la chaîne de café a annoncé la grève. Le débrayage devrait débuter dans 3 villes américaines, Los Angeles, Chicago et Seattle, avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Le syndicat Workers United a engagé un bras de fer avec la direction sur les conditions de travail et les salaires. Selon le syndicat, aucune nouvelle augmentation de salaire pour les serveurs syndiqués n'a été prévue par le groupe cette année et ensuite seule une hausse de 1,5% serait garantie. Cette grève dans le secteur des services est la dernière en date, alors qu'une autre grève a démarré jeudi chez Amazon. Plusieurs sites américains mais aussi allemands sont concernés. Les employés réclament des hausses de salaire.
Agnieszka Kumor, ils étaient des centaines de milliers de Cubains à défiler à la Havane ce vendredi. Emmenés devant l'ambassade américaine par l'ancien président Raúl Castro, ils ont réclamé la fin de l'embargo imposé par Washington. Cuba traverse la pire crise économique depuis 30 ans avec des pénuries en tout genre, des coupures d'électricité chroniques et une vague d'émigration sans précédent. De l'autre côté de la mer des Caraïbes, le Salvador, condamné pour avoir empêché une femme d'avorter suite à une grossesse à risque. Condamnation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la loi sur l'avortement au Salvador est l'une des plus restrictives au monde. L'IVG est interdit dans toutes les circonstances et les femmes qui ont recours risquent de lourdes peines de prison. Et puis, c'est l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne. Souvenez-vous, c'était il y a bientôt 11 ans, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait peu après son décollage de Kuala Lumpur. Eh bien, c'est officiel, la Malaisie approuve la reprise des recherches des débris de l'avion. Une décision qui fait renaître l'espoir d'enfin élucider l'énigme du vol MH370, Yelena Tomic.
Ce qui a convaincu les autorités malaisiennes de reprendre les recherches du Boeing 777, ce sont les arguments avancés par une société d'exploration déjà engagée dans les opérations précédentes, mais qui s'était soldée en 2018 par un échec. Cette fois-ci, Ocean Infinity propose de reprendre les recherches dans une autre zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. La société est spécialisée dans la robotique marine. L'accord prévoit de rémunérer l'entreprise à hauteur de 70 millions de dollars, mais uniquement en cas de résultats significatifs. Cette nouvelle relance l'espoir des familles des victimes qui pourraient enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce 8 mars 2014 lorsque le vol devant relier Kuala Lumpur à Pékin a soudainement disparu des écrans radars, avec 239 passagers et membres d'équipage à son bord. La disparition du MH370 avait alimenté de nombreuses théories allant d'une simple erreur d'aiguillage à un détournement d'avion qui aurait été abattu près de l'île britannique de Diego Garcia, qui abrite une base militaire américaine dans l'océan Indien.
Yelena Tomic, service international de RFI. Quelques résultats de football. En Bundesliga, le Bayern conforte un peu plus sa place de leader, 5-1 sur Leipzig. Victoire aussi en Italie, mais victoire houleuse pour l'AC Milan, 1-0 contre le presque relégable Vérone. RFI, il est presque 2h10 ici à Paris, 1h10 en temps universel.